I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Au mois d'août, les talibans ont repris le pouvoir à Kaboul. Nous avons raconté précédemment dans Code Source comment et pourquoi le retrait américain d'Afghanistan a entraîné aussi rapidement leur retour. Aujourd'hui, nous avons voulu donner la parole à un Afghan, un homme de 32 ans vivant en région parisienne, Ezat. Nous donnons uniquement son prénom par précaution parce qu'une partie de sa famille vit encore en Afghanistan sous la menace potentielle des talibans. Ezat raconte son histoire, la vie sous les talibans et son exil au micro d'Ambre Rosala.
Quand je rencontre Ezat, il vient tout juste de rentrer du travail. Il habite dans un studio, au quatrième étage d'un immeuble de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Il vit seul, mais il me raconte qu'il passe quasiment toutes ses soirées avec des amis, parce qu'il n'aime pas vraiment la solitude. Ezat est né en 1989, dans la province de Meydan Wardak, dans le centre de l'Afghanistan. Ses parents ont des terres agricoles, et il passe sa petite enfance au milieu des champs et des montagnes.
C'est des montagnes d'Afghanistan, tout sec. Il y a des champs d'abricots, de pommes de terre, il y a énormément de fruits et légumes de cette province. C'est une très bon paysage. Il y a beaucoup de beaux souvenirs, de jouer au cricket, de sortir. J'adorais sortir, passer du temps avec des amis. Ouais, j'étais assez libre. Je veux dire, ouais, on va dire que j'étais très libre même.
Quand Ezat fête ses 6 ans, il déménage avec sa famille, dans un petit village à 2 km de Kaboul, la capitale afghane, où son père achète un commerce. Ezat et ses 8 frères et sœurs grandissent dans la religion musulmane, la plus répandue dans le pays, et la fratrie ne reçoit pas une éducation particulièrement stricte. Le 27 septembre 1996, alors qu'Ezat a 7 ans, la ville de Kaboul est prise par les talibans, un groupe armé d'islamistes fondamentalistes. Ils s'emparent du pouvoir et fondent l'émirat islamique d'Afghanistan.
Après la prise du pouvoir à Kaboul par les talibans, les États-Unis ont adressé un avertissement au nouveau régime, demandant instamment que soient respectés les droits des femmes, faute de quoi ce nouveau régime ne sera pas reconnu par la communauté internationale.
Aujourd'hui, les nouveaux maîtres de cette terre sont talibans. La frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan est derrière nous, devant, à 8 heures de route, Kaboul. Les talibans se sont présentés à la population le Coran dans une main, la Kalachnikov dans l'autre. Alors, fatigués par des années de guerre, les hommes et les femmes se sont soumis.
Les femmes n'ont plus le droit de sortir sans porter la burqa ou le tchadri, un voile qui les dissimule de la tête aux pieds. Elles n'ont plus le droit de travailler, ni de faire des études, et les petites filles n'ont plus accès à l'éducation. Ezat, lui, peut continuer à aller à l'école, mais il ne peut plus apprendre l'anglais, une langue qu'il aime pourtant beaucoup. Et il voit les interdits se multiplier.
À telle heure, faut arrêter le jeu, aller faire prière. À telle heure, faut faire ça. Faut pas couper les cheveux comme ça. Faut s'habiller comme ça. Faut laisser la barbe. De parler avec une fille, c'était interdit. Avant de faire un truc, on y pensait 10 fois. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? Je me souviens d'une scène. C'était le mariage d'un cousin. Et qu'il avait coupé, je pense, d'un côté le cheveu un peu plus. Et les talibans l'ont demandé à toutes les personnes. Ils l'ont rasé sa tête. Et ensuite, en disant, tu dois marcher devant tout le monde. Mais après, il y a des gens qui ont supplié à Taliban de le laisser. Voilà, c'est des trucs très basiques et tout ça a été interdit.
Tout ce qui peut distraire de la loi islamique, aux yeux des talibans, est interdit. Ezat ne peut plus faire de sport et donc jouer au cricket avec ses copains. Il n'a plus non plus le droit d'écouter de la musique, d'aller au cinéma ou de regarder la télévision.
Les télés, les téléphones, les photos, ça on avait, mais on l'a caché. On l'a caché vraiment et tard la nuit, vers 1h, 2h du matin, tout le monde se rassemblait caché, regardait un film. Les cousins, on se rassemblait tout le temps chez un l'autre et on attendait que tout le monde dort et ensuite... On sortait la télé, ensuite, quand il y a quelqu'un qui rentrait, tout le monde faisait exprès en disant « Nous, on dort » et on mettait des couvertures, des trucs sur la télé pour le cacher.
Ezat et sa famille vivent quasiment toujours enfermés chez eux, sauf pour tenir le magasin familial. Ezat vit dans la peur de croiser les patrouilles talibanes qui veillent à ce que leurs règles fondamentalistes soient respectées. Car la moindre chose qu'ils considèrent comme une faute peut mener en prison ou pire.
À Kaboul, il y a un stade de foot qui s'appelle Ghazi Stadium. Et c'était un stade où les talibans l'utilisaient pour exécution. Quand ils exécutaient ou assassinaient quelqu'un, ils remplissaient le stade, ils bloquaient le schéma, ils le bloquaient. Et ensuite, ils forçaient tout le monde à rentrer pour remplir le stade. Et ensuite, en disant, faut regarder ce genre et exécuter devant tout le monde pour donner une leçon en disant, si vous faites ce truc-là, vous allez avoir la même chose.
Le 7 octobre 2001, l'armée américaine entre en Afghanistan pour chasser les talibans.
Les soldats viennent d'ouvrir la route et ils se précipitent, acclament tout ce qui passe, les militaires, les journalistes. Il est midi en Afghanistan, voici Kaboul. Les camions militaires ont quitté très tôt ce matin la ligne de front. Le long de la route, les cratères des bombes lancées par les B-52 américains.
De nombreux bombardements aériens entraînent la chute du régime en novembre et à la fin de l'année 2001, les talibans ne contrôlent plus que quelques territoires, au sud-est et au nord-est du pays. Ezat a 12 ans et il se réfugie avec sa famille au Pakistan le temps que la guerre se calme. Ils y restent quelques mois avant de rentrer dans leur village près de Kaboul pour reprendre le commerce familial. Là-bas, Ezat retourne à l'école où il recommence à apprendre l'anglais, mais il sort peu. Il a peur des attentats kamikazes des talibans toujours présents, mais aussi des bombardements américains.
Ça a été arrivé à plein de cas que un taliban il venait se cacher dans une maison pour tirer sur les Américains et les Américains au lieu de trouver une stratégie ils bombardaient le village entier. De où ils peuvent savoir qui est innocent et qui est pas innocent en fait. Pour tuer quelques talibans ils ont bombardé les enfants, les femmes, les personnes civiles innocentes et c'est pour ça on était toujours menacés.
Cette menace est de plus en plus grande avec les années. En 2004, les talibans reprennent le contrôle du village où habite Ezat et la police ne prend même plus la peine d'intervenir. Et surtout, une dizaine d'années plus tard, Ezat trouve un travail qui ne plaît pas aux talibans. À la fin du mois de février 2014, il décide, sur un coup de tête, de prendre la route vers l'Europe avec Ziyam, un ami d'enfance. Il a 26 ans et il laisse derrière lui toute sa vie et toute sa famille.
Je peux pas l'expliquer, mais c'était tellement douloureux et tellement compliqué. Tu sais pas si tu vas bien arriver en Europe, tu sais pas si ta famille va rester vivante. C'est toujours compliqué, toujours difficile. Mais après, nous, on a décidé de partir parce qu'on n'en pouvait plus être là-bas. Et on a voulu juste sortir d'Afghanistan. Quelquefois, faut prendre des décisions, t'as pas le choix.
Ezat et son ami partent à pied vers le Pakistan avant de rejoindre l'Iran. Là-bas, ils payent un passeur pour qu'il les aide à traverser le pays en voiture. En arrivant près de la frontière turque, Ezat, Ziyam et le passeur doivent s'arrêter, bloqués par un barrage de contrôle sur l'autoroute. Ezat raconte qu'à quelques mètres d'eux, une voiture qui transporte d'autres migrants afghans se fait tirer dessus. Certains meurent sous les yeux d'Ezat. Le passeur, pris de panique, refuse de s'arrêter et fait demi-tour.
Et quand il a pris la fuite, il y avait un barrage de la police et il y avait une voiture 4x4 et il y avait un mec qui était sorti de la toit avec un Kalachnikov qui a tourné vers nous la Kalachnikov avec mon meilleur ami. On se regardait comme ça et on s'est dit bah, c'est fini en fait. Là, tout est fini.
Mais le policier iranien ne leur tire pas dessus.
On a eu vraiment la chance, mais ça, c'était vraiment très compliqué.
La voiture où se trouvaient Zat, Ziyam et le passeur est poursuivie par la police iranienne. Ils roulent très vite, sur de petites routes de montagne, et manquent d'avoir un accident très grave et de tomber dans le ravin. Mais ils finissent par semer les policiers. Ezat et son ami renoncent à passer la frontière en voiture. Ils traversent, à deux, les montagnes pendant une journée et une nuit et arrivent enfin en Turquie. Ils restent à Istanbul pendant quelques temps avant de prendre la route vers la Bulgarie. Là-bas, ils sont arrêtés et placés en centre de rétention avant d'être relâchés 3 semaines plus tard. En mai 2014, 3 mois après leur départ, ils arrivent en Serbie, sans ressources et sans nulle part où aller.
Il y a eu des moments très très difficiles où on ne savait pas si on allait survivre parce qu'il pleuvait, on n'avait pas à manger. Le plus difficile pour moi, c'était quand j'ai parlé pendant la fête de l'Aïd avec ma famille et que j'étais au milieu des champs. Il pleuvait, on était trempés toute la nuit et quand ma famille m'appelle, ils faisaient la fête de l'Aïd et... Je pouvais pas leur dire à quelle situation j'étais, mais j'ai dit, on est avec des amis, il y avait un mosquée, on est venu faire la prière, il y a beaucoup de gens qui ont ramené à manger et tout ça, alors qu'on vivait depuis 2 jours avec des biscuits, et que j'ai dit à ma famille, mais tout va bien, je suis très content, il y a des gens, et que je peux pas parler beaucoup, je dois partir, et que c'était le moment très très difficile.
Ezat et son ami parviennent à traverser la Serbie jusqu'en Hongrie, puis en Autriche, où Ziyam décide de rester. Ezat, lui, préfère partir pour la France, où il a quelques connaissances qui peuvent l'aider. Il prend alors le train jusqu'en Allemagne, puis un autre, vers la France. Il arrive à Gare de Lyon, à Paris, le 3 août 2014, après plus de 5 mois de voyage. Il prend tout de suite rendez-vous à la préfecture de Paris pour faire sa demande d'asile. Il espère pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire, une forme d'asile accordée aux personnes exposées à des risques graves dans leur pays et qui leur permet de travailler légalement en France. Mais la procédure est longue et loin d'être simple pour Ezat, qui parle le dari et le pachto, les 2 langues officielles d'Afghanistan, et très bien l'anglais, mais pas un mot de français.
Il ne voulait pas parler anglais avec nous. Et la première chose qu'il nous disait, mais faut parler français. Mais madame, on est arrivé il y a une semaine. Comment vous voulez qu'on parle français? Quelques mois plus tard, quand on est retourné au rendez-vous, c'était pareil, mais quand même, on avait fait un effort d'avancer un petit peu. Et on disait, mais en fait, désolé madame, mais vous nous dites d'apprendre le français au bout de quelques mois, c'est une langue très compliquée. Et vous voulez qu'on en parle au bout d'une semaine ou 2 ou 3 mois, c'est impossible. Et pour moi, c'est quelque chose, tant que tu parles pas français, tu peux pas communiquer, tu peux pas avoir des discussions, que ça soit politique, que ça soit avec des amis, sur n'importe quel sujet. Et c'est pour ça, j'ai essayé à tout pour améliorer le français, commencer à pratiquer. J'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque. T'avais l'internet, t'avais accès à un ordi pour apprendre des choses. T'avais accès à tous les livres, t'avais un moment tranquille, il y avait pas de bruit. Tu lisais ce que tu voulais, tu écoutes la musique, tu penses à des choses, tu prends un café. Franchement, c'était un endroit où je me sentais vraiment bien et c'était quelque chose. J'étais tranquille. Je pense que j'avais besoin d'avoir le temps pour moi. J'étais tranquille, j'étais dérangé par personne. Je lisais ce que je voulais, j'écoutais ce que j'avais envie, je regardais ce que j'avais envie et c'était le meilleur moment.
Pour vivre, Ezat touche une aide de l'État, l'aide aux demandeurs d'asile. Cela représente environ 250 euros par mois pour manger, s'acheter des vêtements, mais aussi se loger. Ezat paye des connaissances pour être hébergé, quelques jours par-ci par-là, mais la plupart du temps, il vit à la rue, au nord de Paris, avec d'autres migrants afghans.
C'est à Porte-de-la-Chapelle avec des amis où l'autoroute qui passe vers Saint-Denis, il y a ce tunnel, après il y a les escaliers d'urgence, c'était dans ces escaliers d'urgence.
Ezat travaille un peu au noir pour se faire un peu d'argent, mais il passe surtout son temps auprès des associations d'aide aux réfugiés. Elle l'épaule dans ses démarches administratives et dans son apprentissage du français, et l'aide surtout à se sentir un peu moins seule. Le 8 janvier 2016, alors qu'Ezat est arrivé en France depuis plus d'un an et demi, il obtient une place au centre d'hébergement d'urgence La Mie de Pain, sur la place d'Italie, dans le 13e arrondissement de Paris. Il vit dans un dortoir et n'a pas vraiment d'intimité, mais ça lui apporte un peu de stabilité. 2 semaines plus tard, le 23 janvier, une lettre au nom d'Ezat l'attend au centre d'hébergement. Avec, en haut à gauche de l'enveloppe, le logo de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ezat vient d'obtenir l'asile en France.
C'était un très grand soulagement. J'ai été très content, j'ai eu une opportunité de réfléchir à l'avenir, à penser quand on pouvait faire des choses maintenant et que j'avais le droit d'avancer dans la vie, que ce soit au niveau de travail, que ce soit autre chose, si je voulais faire des études. J'ai vraiment trouvé la liberté et l'opportunité et à être accepté pour avoir tout ce que je voulais faire dans ma vie.
Vous aimeriez retourner en Afghanistan un jour ?
J'espère, j'aimerais bien, au moins pour quelques jours, revoir le pays, les paysages, la beauté d'Afghanistan, la culture, tout ça. Mais après, honnêtement, pour moi, la France aussi, c'est aussi proche pour moi qu'Afghanistan. J'ai eu la liberté, en fait, apprendre la langue, à parler avec tout le monde, avoir des amis, que ce soit filles ou garçons. Tout le monde est ensemble, il n'y a aucun problème, c'est pour ça. J'aimerais bien retourner en Afghanistan, mais je n'ai pas envie d'abandonner non plus la France.
Ambre, Ezat, de quoi est-ce qu'il vit aujourd'hui ?
Aujourd'hui, il est devenu interprète. Il travaille pour plusieurs associations d'aide aux migrants. Et il aide les réfugiés qui arrivent en France et qui ne parlent pas un mot de français dans leur démarche administrative. Il m'a dit que c'était quelque chose qu'il avait eu envie de faire très vite après son arrivée en France, tellement ça avait été compliqué pour lui, en fait, de faire ses démarches administratives. Et pour lui, c'était naturel, maintenant qu'il parle très bien français, d'aider ceux qui arrivent aujourd'hui.
Dans ton sujet, tu dis que quand il était encore en Afghanistan, les talibans n'appréciaient pas son métier, mais qu'est-ce qu'il faisait justement ?
Alors, il n'a pas voulu me dire précisément le métier qu'il faisait là-bas, ce métier qu'il a en partie poussé à quitter son pays. Tout ce que je sais, c'est que c'est un poste qui le mettait en danger par rapport aux talibans et qu'aujourd'hui, il ne veut pas trop en parler ouvertement parce qu'il sait que les talibans scrutent un peu les médias étrangers et il n'a pas envie d'attirer l'attention sur lui. Il a peur, en fait, qu'à cause de lui, les talibans s'en prennent à deux de ses frères qui sont restés en Afghanistan.
Comment est-ce qu'il a vécu le retour au pouvoir à Kaboul des talibans ?
Il le vit pas très bien. Il a très mal vécu ce retour des talibans à Kaboul. Il en a beaucoup parlé avec ses amis. Il a beaucoup d'amis afghans aussi à Paris. Ils en discutent, ils se réunissent beaucoup. Il suit aussi plus que d'habitude les informations pour voir comment la situation évolue. Mais en même temps, il m'a aussi raconté que c'était pas vraiment une surprise pour lui. En fait, ça fait quand même un moment qu'il savait que l'armée américaine allait partir d'Afghanistan et que les talibans allaient reprendre le pouvoir. Donc, il s'en doutait un petit peu.
Et sa famille en Afghanistan, comment elle va ?
Quand il a appris que les talibans étaient revenus, Ezat a tout de suite appelé sa famille. Il a ses parents et plusieurs de ses frères et sœurs qui ont réussi à s'enfuir au Pakistan et ils vont bien. Par contre, il a deux frères, comme je le disais tout à l'heure, qui ont dû rester dans leur village près de Kaboul pour tenir le commerce familial. Ils avaient peur qu'en partant, ils se fassent piller, voler tout ce qu'il y avait dans le magasin et qu'ils perdent tout ce qu'ils avaient construit depuis plusieurs années. Et ils ont donc dû rester. Mais Ezat discute avec eux au téléphone ou par SMS tous les jours, de manière quotidienne, et il m'a dit qu'ils allaient bien.
Merci Ambre Rosala et merci à Gwenaëlle Bourdon pour son aide. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun Code Source, abonnez-vous sur n'importe quelle application audio et vous pouvez aussi nous retrouver sur leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Thibault Lambert, Sarah Amni et Timothée Croisant. Réalisation, Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de laisser un commentaire sur votre application de podcast et vous pouvez aussi nous écrire directement pour nous faire des retours. codesource@leparisien.fr.
Hey, Prime members, you can listen to this show ad-free on Amazon Music. Download the Amazon Music app today.